le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire « notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur ».
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Et bienvenue dans le comptoir du monde sur Radio Balade. Ce mois-ci, au comptoir, on est branché. On est branché pas dans les arbres, comme le mois dernier, souvenez-vous, on est branché à la prise. Aujourd'hui, on va vous parler de transition énergétique, on va vous parler de surconsommation, on va vous parler d'industrie énergétique, mais aussi de local. On va vous parler de solutions, on va vous parler de transition de territoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités. On aura Juliette Thévenot, chargée de transition énergétique au parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes dans un instant au téléphone. Et on a la chance d'avoir en studio avec nous à Radio Balade, à Esperanza, Gérard Chauvet. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Gérard, tu es administrateur d'un de trois soleils, la centrale photovoltaïque citoyenne de Luxeuraude.
Oui, je suis rentré comme administrateur du conseil de gestion de la centrale photovoltaïque au moment où elle a démarré. Juste avant la construction proprement dite, en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus très bien.
D'accord, donc déjà 3 ans de fonctionnement pour cette centrale, donc tu pourras nous parler un peu du projet et puis la manière dont ça fonctionne.
Ouais, je pourrais vous raconter comment ça a été créé, comment ce que ça a coûté, comment on fonctionne maintenant depuis 2 ans que la centrale est en production.
Autour de la table avec nous aussi, Nicolas, tu vas pouvoir un petit peu nous en dire plus sur le contexte énergétique aujourd'hui et aussi sur cette actualité un peu brûlante qui est la vente à la découpe de l'énergéticien français EDF.
Et oui, avant d'aborder les sujets photovoltaïques, rappeler que le développement des sources d'énergie accompagne, permet et conditionne le déploiement de l'activité humaine depuis les temps immémoriaux. Et que jusqu'au 18e et 19e siècle, la consommation d'énergie était relativement stable, faible, et ne provenait que de ressources renouvelables, le bois, le vent et l'eau. Alors aujourd'hui, on a ajouté le soleil, et on verra comment et par quoi c'est permis. L'industrialisation massive qui a eu lieu au 19e siècle entraîne des changements profonds dans les modes de vie et de consommation. On peut dire aujourd'hui qu'en 2021, l'énergie est devenue entre guillemets bon marché dans tous les pays occidentaux. Les énergies fossiles sont toujours en position de force et il faut savoir qu'encore un tiers de l'humanité utilise encore exclusivement bois et charbon de bois pour se nourrir, se chauffer et travailler. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour global un peu du tableau de l'énergie. Pour introduire cette émission, donc, je me suis basé sur un dossier de manière de voir qui est le mensuel du monde diplomatique. Enfin mensuel ou plutôt trimestriel, qui sort des numéros. Et puis là, voilà, c'est sur ça, c'est sur l'énergie en général. Ça date déjà de 2011, mais ça n'a pas trop changé depuis. Alors, on voit 3 grands traits relatifs à la production et à la distribution de l'énergie, qui est souvent aux mains d'industriels. Alors, le premier, c'est l'opacité, puisque les connaissances fiables dont on aurait besoin pour peser sur les choix de demain sont souvent confisquées au public, puisqu'elles sont dans les coffres d'État ou d'entreprises. Deuxième trait caractéristique de notre production et distribution aujourd'hui, c'est l'inertie, puisque des investissements sont nécessaires, ils sont lourds techniquement, financièrement, et puis ils engagent un pays sur plusieurs générations. Et puis le troisième grand trait, c'est la libéralisation du secteur au niveau mondial avec des intérêts économiques qui priment. Hein. Donc le fameux marché, bon, on ne sait pas trop où il se situe, mais entre guillemets, c'est le marché, c'est-à-dire la capacité d'acheter, de vendre l'énergie. Et puis les acteurs dominants, ce sont quand même les multinationales de l'énergie qui recherchent bien sûr des profits. Les questions actuelles qui se posent face aux enjeux climatiques notamment et qui nous réunissent un petit peu aussi ce soir, c'est quel choix entre renouvelables et fossiles? Est-ce que le nucléaire est encore nécessaire? Et comment articuler le réseau idéal local aux grilles qui sont transcontinentales, qui traversent les continents et qui sont déjà en place? Alors, on doit constater que les industriels poursuivent et accélèrent de nos jours l'extraction des ressources fossiles, malgré tous les constats de tous les scientifiques sérieux de ce monde. Et en fait, ces industriels répondent et stimulent aussi une hausse effrénée de la demande d'énergie qui n'a cessé de croître et qui continue à croître. Alors, même s'ils cherchent à verdir leur image, tout est mis en œuvre. Et quand on dit tout, c'est-à-dire ça passe de la guerre au traité de commerce, pour que le monde entier puisse être approvisionné en continu, comme nous le sommes, en pétrole, gaz et uranium, à partir de seulement quelques lieux et pays d'extraction. Pour beaucoup d'experts, le développement des énergies renouvelables renverserait la donne. Et c'est là qu'on va voir aujourd'hui qu'il y a des solutions, effectivement, face à ce tableau. Les renouvelables sont a priori produits localement pour une utilisation régionale. Alors on se demande à quoi ressemblerait le monde si l'ensemble des pays ou bien des régions motrices qui en ont les moyens aussi, comme l'Europe par exemple, pouvaient mettre en place un vaste plan d'économie d'énergie ou décidaient de n'utiliser que des énergies renouvelables et des ressources fossiles présentes sur leur territoire. Assurément, ce monde ne ressemblerait pas à celui qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'intéresse à la production, la distribution et la vente d'électricité notamment. À l'heure actuelle, il faut se rendre compte que cette production dans le monde repose encore principalement sur la combustion de matières fossiles. C'est-à-dire qu'on brûle gaz, pétrole, charbon pour produire de l'électricité. Ça concerne 60%, 64% en 2011, 60% aujourd'hui environ de la production électrique mondiale. Alors, on n'est pas vraiment sorti de l'ère des fossiles, Rien que la combustion du charbon prodigue encore 38% de l'électricité mondiale. 26% est assuré par les technologies dites renouvelables et 10% de la production électrique mondiale par les technologies nucléaires. On utilise donc encore massivement des énergies fossiles pour produire de l'électricité. En plus, les usages mondiaux de cette forme d'énergie ont tellement augmenté sur 30 ans que la quantité de CO2, quand on brûle du charbon, du bois, du pétrole, ça rejette ce fameux dioxyde de carbone qui contribue à bouleverser le climat mondial. Cette quantité de CO2 rejetée par la production d'électricité a fortement augmenté. Elle est aujourd'hui 76% plus élevée qu'en 1990, c'est-à-dire que le secteur de l'électricité, la production d'électricité, émet une part vraiment importante du CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère par l'activité humaine. Donc en France, on a un schéma un peu différent. L'électricité représente un quart de la consommation totale d'énergie. On pense à nos usages quotidiens, peut-être les voitures, etc. Mais voilà, l'électricité, c'est un quart de toute cette consommation d'énergie. Elle est issue à 70% de la production nucléaire, 20% des renouvelables, avec en tête l'hydraulique, les grands barrages, suivi de l'éolien, et puis à 7% de fossiles. Donc c'est un peu un schéma inversé pour la France, qui est également le pays d'Europe le plus exportateur d'électricité. Voilà, avec une très faible part, plutôt une faible part des énergies fossiles dans son mix pour produire l'électricité. Cette électricité qui est un bien essentiel et déterminant dans nos sociétés modernes et qui est un secteur qui va être décisif de toute une politique de transition énergétique que beaucoup de personnes appellent de leurs vœux. Alors l'acteur historique de toute la chaîne, on le connaît bien, cette chaîne qui va de la centrale thermique ou de la centrale nucléaire jusqu'à la prise, c'est bien sûr l'acteur EDF, Électricité de France, qui a été créé en 1946 comme un service public, un bien commun de la nation inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Et donc EDF n'est pas un actif dont pourrait disposer le gouvernement comme il l'entend. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on va revoir un peu plus tard que ça a son importance dans les futurs projets. Donc EDF a été et reste un outil déterminant pour piloter une politique énergétique et même au-delà digne de ce nom. Il faut dire que les décisions prises engagent pour des années le pays. Donc on parle de sécurité, on parle de compétitivité, entre guillemets. Bien sûr, il y a tout un volet industriel et de production qui va derrière. Et puis, il y a aussi l'aménagement du territoire. La plupart des barrages hydrauliques ont été construits par et pour l'État dans les années 50, ainsi que les centrales nucléaires dans les années 70-80. Donc ce monopole public a peu à peu été érodé. En 2004, EDF a perdu le monopole de la fourniture d'énergie aux entreprises. Et en 2007, c'est le marché de la vente d'électricité aux particuliers qui a été ouvert à la concurrence. bien sûr, pour se conformer aux injonctions des traités européens dont on reparlera peut-être un peu plus tard. Alors, de nouveaux acteurs se sont manifestés. On a d'un côté des entreprises essentiellement financières et de trading, et puis on a des initiatives un peu différentes dont on va avoir un exemple d'ici peu de temps avec Gérard qui va intervenir pour nous. Et puis on évoquera un peu plus tard dans l'émission l'étape d'après, c'est-à-dire le projet dont le gouvernement actuel n'est pas très fier puisqu'il n'en fait pas trop la publicité et qui est le suivant, le démantèlement d'EDF en fait, en plusieurs entités. Donc je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie pour évoquer avec vous ce projet qui a été désigné sous le nom d'Hercule pendant un moment. Alors Hercule, Jupiter, tout ça, ça sent la mythologie à plein nez, mais on verra que ça sent un peu l'arnaque surtout, et qui a réussi ce projet à fédérer tous les acteurs contre lui. Donc je parlais juste avant de ces initiatives, puisque le marché de l'énergie est ouvert, et que voilà, du coup on peut voir pointer des solutions locales à ce désordre global qui s'installe.
On va évidemment pas répondre à toutes les problématiques que tu as soulevées, notamment au niveau du mix énergétique à l'échelle d'un pays, au niveau de l'indépendance énergétique d'un pays. Mais je pense que l'exemple qu'on a à Luxeuroad et que tu représentes, Michel, avec ce parc, Gérard, pardon, avec ce parc 1-2-3 Soleil, ce parc photovoltaïque, il a été pensé et il a été fait avec les citoyens, c'est-à-dire dans une démarche aussi ascendante de se réapproprier la production énergétique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, en 2010, la mairie de Luxeuroad avait déjà la préoccupation de faire une transition énergétique et d'essayer de trouver des sources d'énergie locales et a modifié le plan local d'urbanisme, pour pouvoir réserver certains terrains de la commune à l'installation de parcs photovoltaïques au sol. Et en 2014, il y a eu un appel à projet de la région qui proposait de financer des projets de transition énergétique, donc la possibilité d'investir dans des parcs photovoltaïques en mettant 1 euro chaque fois qu'un citoyen local mettait 1 euro de sa poche. Donc il y avait une enveloppe qui était plafonnée à 100 000 euros et qui pouvait abonder un projet de parc photovoltaïque. Et donc entre 2014 et 2018, il y a eu un travail d'information, de consultation et d'études avec un développeur d'énergie renouvelable qui s'est fait sur la commune de Luxeuroad pour essayer de faire un projet, de dimensionner un parc photovoltaïque et de trouver des citoyens qui s'investissent dans la construction du parc.
Ce fournisseur, on va pas se cacher, on peut le nommer, je pense que c'est NERCOP, n'est-ce pas ?
Alors, non, au moment de la réflexion sur le parc photovoltaïque, c'est une petite société qui s'appelle Soleil du Midi et qui avait déjà travaillé dans la région sur le parc photovoltaïque de Cuisa. L'ancienne décharge de Cuisa a été équipée d'un parc photovoltaïque de la même puissance que le parc photovoltaïque de Luxeuroad. La différence, c'est que l'investissement est entièrement fait par une société et n'a pas été ouvert au public local. C'est la grosse différence. Sinon, le parc photovoltaïque lui-même est quasiment de la même taille, en tout cas de la même puissance, que le parc photovoltaïque de Luxeuroad.
Et vous avez pu bénéficier de soutien de structures, d'associations qui vous ont accompagné sur ce développement citoyen, parce que c'est peut-être pas la première fois que ça se fait en France. En tout cas, ça s'est déjà fait sur l'éolien et peut-être pas sur le photovoltaïque.
Alors pour le photovoltaïque, c'est la première centrale photovoltaïque au sol qui a été créée en France avec un financement citoyen.
La classe.
Eh ben oui. C'est beaucoup grâce à l'investissement, enfin à l'investissement, à l'énergie dépensée par le maire de Luxeuil-Rhône, Jean-Claude Ponce, qui a des marchés qui venaient sur la foire bio de Couiza les étés précédant la construction du parc, pour faire la pub sur son projet de parc et proposer aux gens d'investir dans la création du parc photovoltaïque.
Mais il y avait déjà eu des exemples à l'échelle de la France sur d'autres types d'énergie renouvelable. Vous partiez pas de rien non plus.
Alors il y avait déjà des parcs de cette taille-là qui avaient été créés. Il y avait des investissements citoyens qui avaient été faits dans des projets éoliens, en particulier en Bretagne. Il y avait des associations qui se créaient pour accompagner ces projets-là. Mais bon, le parc photovoltaïque de Luxeuil-Rhône a été le premier, et il a fallu choisir la structure juridique qui allait être le support de la collecte des fonds, et puis après mettre en place, à proprement parler, le parc photovoltaïque lui-même.
Et aujourd'hui, en termes de production, vous en êtes à... Voilà, vous faites... Combien de kilowatts par an ça représente? Alors, la consommation de combien de personnes?
Ça représente, en fait, c'est un petit parc photovoltaïque qui fait la surface sur lequel a été posé les panneaux photovoltaïques fait 8000 m². Il y a 1500 m² de panneaux photovoltaïques proprement dit. Et on produit 320 000 kilowattheures chaque année. Ce qui revendu à la société Enercoop, qui est une société qui s'est créée suite à la libéralisation du marché de l'énergie et qui est une des seules qui achète, produit de l'énergie renouvelable et le revend aux citoyens, sans passer par des rachats à d'autres sociétés existantes. Nous rachète l'électricité à 10 centimes du kilowattheure, ce qui est un prix relativement élevé par rapport au prix du marché de l'énergie aujourd'hui.
Oui, en sachant que le tarif régulé auquel EDF, par exemple, vend son énergie nucléaire, il est de 42 € le mégawattheure. Donc 10 centimes le kilowattheure, c'est un bon prix parce que ça rémunère correctement l'énergie, quoi, par rapport au prix auquel est vendu le nucléaire par EDF à ses concurrents.
Super. Et donc aujourd'hui, c'est une société, donc 1-2-3 Soleil. Il y a quoi, des actionnaires, des sociétaires?
Voilà, c'est une société, c'est une SAS, et il y a 260 sociétaires. Il y a trois entreprises qui sont sociétaires et sinon il y a 257 particuliers qui ont des parts entre la part, le montant unitaire de la part c'est 100 €, et il y a des gens qui ont 100 €, il y en a qui en ont 500, il y en a qui en ont 1000, 2000. Il y a un sociétaire qui a 30 000 € investis dans le parc. Et donc la plupart des gens qui ont investi dans ce projet sont des gens locaux. Il y a 25% des sociétaires qui sont au doigt. Une grande partie viennent de son loge sur l'Occitanie. Et il y a quelques sociétaires qui habitent à Paris ou à Montpellier ou enfin dans d'autres bouts de la France. Mais il y a une grosse partie de sociétaires qui sont au doigt et même de Luxeuil-Rhône. La production d'énergie du parc photovoltaïque correspond à la consommation d'un village de 250 habitants à peu près.
D'accord, donc pour comprendre le système en fait, donc le parc photovoltaïque a donc été financé à la fois par les citoyens, à la fois par des subventions.
Une subvention
régionale.
Régionale. Ouais.
Régionale. Et donc ensuite, au moment où il est créé, il produit. Et ensuite, comment on fait pour acheter l'énergie de ce parc alors?
Eh bien, il y a un contrat qui a été signé avec Enercoop qui rajoute la totalité de l'électricité qui est produite. Et après ça, l'électricité est remise dans le réseau. C'est, si dans la journée, quand les gens de Luxuraude ou de Couisa ou des communes voisines consomment de l'électricité, ils consomment en partie l'électricité qui vient du parc photovoltaïque de Couisa et en partie celle qui vient du parc photovoltaïque de Luxuraude ou d'Antuniac, puisque maintenant il y a aussi une grosse centrale photovoltaïque sur Antuniac. Mais donc l'énergie va au plus près pour sa consommation. Et donc les gens qui consomment cette électricité-là, mais après ça, ils peuvent avoir des fournisseurs très différents. La plupart des gens dans le coin doivent être plutôt clients de Enedis ou d'autres sociétés. Quelques-uns sont clients de Enercoop. Mais bon, l'électricité, elle ne va pas en fonction de qui achète et qui vend, bien sûr.
Ok, merci beaucoup Gérard pour cette présentation. Et avant de passer à une échelle un petit peu plus élevée, de parler vraiment de projets de transition énergétique territoriale au niveau du parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes, on va s'écouter un petit morceau de Plumet Philomique qui, eux aussi, sèment des graines d'utopie solidaire.
Il suffit d'un frère, d'une sœur et parfois même d'une pierre, d'une seule. En moi gravé, lumière du peuple qui brille de plus belle et demeure. En chacun de nous rester unique, du changement en est une brique. Tu piques nos gestes en quête d'une suite. Les graines d'utopie sont multiples, la foi à preuve, les terres arides. Vivre ses rêves, trouver sa paix, on ne savait pas que c'était impossible. On a osé et on l'a fait, comprendre que chaque âme est rédactrice d'une énergie fédératrice, une synergie révélatrice d'actes et pensées créatrices.
Des milliards de fois autant de possibles et autant de pierres à l'édifice. Myriade de choix positifs, sans grands espoirs ni artifices. Sans politique désabusée, polémique pour diviser, là où chacun devra ruser. Conscience critique devra user, irisée de gestes tellement infimes mais qui n'attendent rien en retour. La vie fera le reste, seulement les signes. À toi d'en tracer les contours. Pas de concours ni de compétition, si ce n'est nous-mêmes pour adversaires. L'amour pour unique ambition, en bref l'emblème des sœurs et frères.
Un acte peut-être l'oasis au cœur d'un désert macabre. Autant qu'une parole peut réchauffer le froid d'un hiver glacial. Ne néglige rien, le geste est petit, l'impact immense. De la main tendue au regard dense, du bref rictus au large silence. La foi cristallise les pensées et l'utopie devient concrète. Elles sont en nous les grandes conquêtes. Au vu d'une vie saine et complète, nos cœurs et nos racines parlent par le creux de nos demain, non, ne procrastine pas, comprends qu'aujourd'hui c'est demain. A l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète. Moi plus toi plus nous plus eux et l'utopie devient concrète. A l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète. Moi plus toi plus nous plus eux et l'utopie devient concrète.
Immense c'est le champ des possibles, aux mille reflets multicolores. Loin du ciment, grain indocile pour se déployer. N'attend que l'aurore, une brise légère. Souffle les rumeurs d'une pluie qui abreuve toute terre aride. Lumière s'étend dans chaque lueur, des cimes aux plus profondes racines. Ainsi le rêve qu'on croyait trop fou pour le dévoiler dans un murmure. Cette chimère qui verra le jour qu'on front écroule et tous nos murs. Ne tient qu'à moi, qu'à toi, qu'à vous de semer d'un geste solidaire. Ces utopies qui vous tabouent repeindront ce monde ordinaire.
Parce que l'état de ce monde sent comme un écho à nos vies. Mon son, mon rap, une dédicace à tous ces héros anonymes. À ceux qui ont retenu les leçons et prennent chaque moment comme une petite étrenne. En lutte pro-palestinienne, afghane, syrienne ou tibétaine. À ceux qui marquent de leur saut les combats de leur temps. À celles qui réchauffent par les mots et qui l'ont payé de leur sang. À tous ces petits gestes immenses, aux veilleurs de valeur, à ceux qui pour la vie des autres donnent le meilleur de la leur.
Une part de rien qui forme le tout, sans grand discours et peu de moyens. Là où se tendent les mains, on s'ouvre les cœurs du monde en devenir citoyens lucides et bien conscients, tenus à l'écart de leur empire. Quand stupides et bien pensants, les bulletins dans l'urne s'empilent. On a refusé leur code, leur case et leur modèle. On ira retourner le décor, détaché du matériel. Un plus un plus un plus un, somme voilà la solution. Si graines d'utopie solidaire se sème en quête d'évolution.
À l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète. Moi plus toi plus nous plus eux et l'utopie devient concrète. À l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète. Moi plus toi plus nous plus eux et l'utopie devient concrète. À l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète. Moi plus toi plus nous plus eux et l'utopie devient concrète. À l'inverse du chacun pour soi, donner de soi à chacun. À l'heure où l'on est ce que l'on a, comprendre le choix y'en a qu'un. Responsable de ce que l'on sème, chaque solution se complète.
Et c'était les Toulousains Plumes et Philomique avec les graines d'utopie solidaire. Vous êtes de retour au comptoir du monde. Au comptoir du monde, aujourd'hui, on prend un coup de jus, un sacré coup de jus. On parle de transition énergétique du territoire. Voilà, on a avec nous Juliette Thévenot, chargée mission transition énergétique au parc naturel régional de Corbière-Fenouillade. Est-ce que tu nous entends, Juliette ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le cadre de ta mission au parc, qui d'ailleurs vient de se créer. C'est une entité qui est toute nouvelle. Pourquoi est-ce que le parc s'est saisi de cette question de la transition énergétique du territoire ?
Alors, on n'est pas tout à fait créé. On attend le décret ministériel qui devrait arriver incessamment sous peu pour officialiser le label PMR. On sera le 57e PMR en France. Juste deux petits mots quand même pour situer pour nos auditeurs le territoire. En deux mots, le PMR, c'est 99 communes qui ont adhéré à ce qu'on appelle une charte, qui est le document, le projet de territoire pour les 15 prochaines années, dont la question de la transition énergétique est contributrice dans l'ensemble des autres missions. Et on va du sud au nord, de Sournia jusqu'à La Grasse, ou de Quillan jusqu'à Aupoul-Périos pour situer d'est en ouest. Et on est à cheval sur deux départements, l'Aude et les Pyrénées orientales. Pourquoi est-ce que le PMR s'est saisi des questions de transition énergétique ? C'était une volonté politique de mettre cette action phare comme un sujet important à traiter dans le cadre de sa charte, comme je vous l'expliquais, qui est un document, un projet de territoire élaboré pour une quinzaine d'années. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les acteurs du territoire travaillent sur la création de ce PMR. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PMR, au-delà des missions de transition énergétique, qui est spécifique au PMR Corbière-Fenouillade ou au nouveau PMR aussi en construction par rapport aux anciens, on est là en tant que PMR pour être à l'écoute des projets. On se substitue pas aux initiatives locales, mais on doit les favoriser, en être moteur. Et la question de la transition énergétique, elle s'appuie également sur ce mode de fonctionnement. On est là aussi pour appuyer le montage des projets, et on est vraiment là aussi pour être en termes d'enjeu principal entre une harmonie entre l'homme et la nature. Voilà un petit peu le cadre du PMR.
Super. Et alors, dans ce cadre-là, quelles sont exactement tes missions, c'est-à-dire de favoriser l'émergence de nouvelles sources de production renouvelable, ou plutôt d'aller travailler sur les économies d'énergie, sur les pratiques des habitants du territoire ?
Alors, d'un point de vue à la fois stratégique et mon cadre d'intervention, quelle est la vision du territoire en termes de transition énergétique ? On s'inscrit dans le scénario Négawatt, qui a produit donc un scénario au niveau national sur comment sortir de l'énergie nucléaire à horizon 2050 pour avoir un mix énergétique 100% renouvelable. Donc on s'inscrit dans cette dynamique. Et pour s'inscrire dans cette dynamique, le scénario, ce qu'il nous dit, c'est d'être à la fois en action sur la question sobriété, donc sur la baisse de nos consommations, d'être à la fois sur des actions en faveur de l'efficacité énergétique, on va toucher à tout ce qui est bâtiment, et d'orienter et de maîtriser la question des énergies renouvelables. Donc nous, en tant que PMR, et au niveau de la charte, qui est le document sur lequel je m'appuie dans le cadre des interventions, on va avoir et on a des actions en faveur à la fois de la sobriété, de l'efficacité et du renouvelable. L'un est indispensable de l'autre, on travaille sur ces trois piliers. Et la particularité du PMR vis-à-vis de ces trois domaines d'intervention, qui sont un peu la stratégie globale qui a été travaillée par les élus du territoire et les acteurs du territoire dans le cadre d'élaboration de la charte, c'est de pouvoir à la fois apporter des solutions sur la question sobriété, efficacité, renouvelable, mais dans un respect à la fois des patrimoines, de la richesse, de la biodiversité. On a un territoire fortement couvert de richesses patrimoniales, biodiversité, d'être à la fois inscrit dans un projet à l'image de ce que peut être le projet 1, 2, 3 Soleil sur la commune de Luxeuil-Rhône. Comment est-ce que les projets, on les fait de manière concertée? Comment est-ce qu'on les fait avec les territoires? Et on est aussi à concilier différents enjeux que sont le tourisme, les dimensions agricoles ou autres au niveau du territoire. Ça, c'est un peu la stratégie globale. Donc concrètement, dans le travail de charte, il y a des actions prioritaires qui ont été élaborées, donc de travailler en faveur des mobilités douces, de travailler sur la question de l'architecture économe en énergie pour la partie sobriété et efficacité, et ensuite un accompagnement aussi et une orientation sur la production des énergies renouvelables.
Donc là, en fait, Juliette, toi, là, tu nous expliques le cadre général de tes missions. Et moi, j'aurais voulu savoir, comme le PNR, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du département, qui n'est pas de l'ordre non plus d'une seule collectivité, quand il y a des discussions, comment ça se passe vraiment concrètement? Est-ce que vous avez votre propre instance PNR qui va se réunir au niveau de la région, je ne sais pas. Et comment ça se passe pour discuter? Parce que s'il y a 99 collectivités qui font partie de la charte, ça ne doit pas être évident de réunir tout le monde et surtout d'avoir des actions concertées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà? Alors je sais que ça n'a pas encore commencé officiellement, tu viens de le dire, mais est-ce que vous avez des plans d'action particuliers pour vous mettre d'accord ensemble?
Alors du coup, Nicolas, dans ta question, j'entends deux questions. La première, c'est un petit peu l'organisation partenariale avec nos différents partenaires. Donc pour préciser, un PMR, c'est une instance qui est proposée aussi à l'initiative de la région. Comme financeur, on a le département, la région, les collectivités du territoire et les communes. Donc comme tu le disais, au niveau de nos partenariats, on n'est pas là pour se substituer aux initiatives et aux associations ou aux collectivités, on est bien là pour appuyer. Donc notre accompagnement, il est à la fois en termes de propositions d'animation territoriale, de sensibilisation, de mobilisation sur les sujets de la transition énergétique. Il va être à la fois aussi de proposer des actions concrètes, donc on peut dire des actions portées en propre par le PNR, et un accompagnement à la carte des porteurs de projets et des collectivités qui est transversal aux autres agents au niveau du PNR. On travaille aussi sur les questions géologiques, patrimoine immatériel, etc. Donc ça, c'est la question partenariale. Donc on participe, par exemple, à un atelier de territoire dans l'élaboration d'un plan climat pour une communauté de communes. On y participe, on est associé. On répond aussi aux sollicitations des intercommunalités quand elles sont sollicitées sur un projet. On est en relation avec les services d'État quand il faut instruire un permis de construire vis-à-vis d'un projet d'énergie renouvelable. Et ensuite, la deuxième question que j'entends, c'est d'un point de vue action, quelles sont les actions qui vont pouvoir être portées? Du coup, comme je le disais, c'est une création de poste. Moi, je suis arrivée tout début janvier, donc même s'il y a tout le travail de la charte, il y a aussi tout un travail de mise en œuvre de l'ensemble de cette stratégie. Donc nous, on est à destination en termes d'accompagnement à la fois des collectivités, communes, collectivités de type communauté de communes. On est à la fois au service des porteurs de projets, que peut être associatif ou autre. Et on est aussi au service des particuliers, plus à titre d'animation et d'information au niveau du territoire. Et donc les actions qui vont être lancées, pour donner une illustration un peu concrète, si on prend le sujet des énergies renouvelables, la charte nous dit que la priorité et d'installer le photovoltaïque en toiture de bâtiment, que ça soit photovoltaïque ou solaire thermique. Donc concrètement, on va accompagner les collectivités et les citoyens, pour ceux qui veulent s'engager dans une démarche citoyenne, à installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Si on prend par exemple la question d'économie d'énergie, on est en cours de discussion avec les syndicats d'énergie pour mettre des actions à grande échelle, à l'échelle du PNR, pour maîtriser les consommations dans les bâtiments publics, par exemple.
Alors, par exemple, ça, c'est un volet, pour revenir un peu à l'actualité récente, qui a été, par exemple, écarté dans la loi, la fameuse loi qui devait sortir des travaux de la commission, enfin, de la Convention citoyenne pour le climat. Et je crois qu'ils ont, tout ce qui est relatif à l'isolation des bâtiments, etc., n'a pas été retenu parmi les propositions qui avaient été faites, ça n'a pas été retenu. Donc, c'est bien que ça se fasse d'un point de vue local, du coup, ça supplée un petit peu les manquements nationaux, quoi.
Ouais, alors,
qu'est-ce qui est fait justement là-dessus sur les aides à l'isolation des bâtiments? Parce que c'était ça un peu le deuxième axe du scénario Négawatt dont tu parlais, c'est l'efficacité aussi. J'imagine que il y a un accent qui est mis là-dessus sur l'isolation, sur le fait d'avoir aussi des modes de chauffage performants?
Alors du coup, nous en tant que PNR, comme je le disais, on ne se substitue pas aux structures locales, donc toujours toute la question rénovation énergétique. Une partie de mon travail, ça a été de mettre à plat un peu quels étaient tous les dispositifs. Et à partir du mois prochain, par exemple, il y a des permanences qui vont se tenir dans différents endroits du PNR et notamment au siège du PNR qui est basé à Tuchan, de ce qu'on appelle le guichet Rénov Occitanie. Donc la région Occitanie souhaite mettre en place une forme de guichet unique pour faire l'accompagnement aux particuliers, par exemple, sur l'accompagnement à l'aide aux subventions quand on souhaite rénover sa maison, installer du solaire thermique, déposer un dossier de subvention sur des aides plutôt sociales. Donc nous, on est là pour avoir toutes les informations et transmettre, en tout cas d'un point de vue technique, quels sont les dispositifs dans lesquels vous pouvez aller vous renseigner si vous êtes un particulier, si vous êtes une collectivité, etc. Nous, directement, on n'a pas de dispositif de financement. On n'est pas là pour financer en direct des projets, mais plutôt pour accompagner une initiative. Par exemple, un exemple concret, si une communauté de communes nous sollicitait parce qu'elle souhaitait, elle souhaiterait mettre en place des actions en faveur de la rénovation énergétique ou mettre en place un programme d'animation, on peut aider et participer à l'élaboration de la recherche de financement pour offrir ce service aux habitants et aux associations du territoire. Nous, ce qu'on peut porter en propre sur la partie, par exemple, rénovation des bâtiments, ça va être la mise en place de journées techniques de sensibilisation qui vous seraient co-construites à la fois avec un CAE, un conseil d'architecture, urbanisme, environnement ou d'autres structures pour pouvoir proposer des journées techniques sur, par exemple, l'installation d'une chaufferie bois collective comme on peut avoir sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet qui à la fois fournit en chaleur et un lycée, une maison de retraite et une piscine. Voilà, on peut faire des journées techniques pour présenter les initiatives qui sont inspirantes au niveau du territoire, ou on pourrait aussi aller visiter les logements sociaux qui ont été rénovés sur la commune de Luxureau dans l'éco-rénovation, etc. Ça va être un programme qu'on va pouvoir proposer dans notre rôle d'animateur territorial sur ces questions-là.
Donc si on a des élus ou des agents des collectivités locales qui ont la bonne idée d'écouter Radio Balade en ce moment, ils savent à qui s'adresser pour avoir un accompagnement technique sur ce genre d'initiative-là, pour avoir des retours d'expérience, pour être mis en lien avec les bonnes personnes qui vont leur permettre de mener à bien ces projets de transition énergétique à l'échelle ultra-locale.
Tout à fait. On est vraiment là pour, comme tu le dis Aurélien, pour un accompagnement à la fois stratégique, c'est-à-dire accompagner la réflexion en amont, apporter l'information de tous les documents qui ont pu être produits à l'échelle du PNR. On a tout un diagnostic à la fois des consommations énergétiques, de la trajectoire tendancielle à prendre pour être autonome en énergie à horizon 2050. Hein, c'est l'objectif de la charte. On est à la fois sur un accompagnement technique, comme je l'expliquais, sur une demande précise, rédaction d'un cahier des charges, animer une réunion pour parler énergie citoyenne, par exemple, et un accompagnement d'appui à l'ingénierie financière sur de l'aide à la recherche de subventions. Ça vaut pour les collectivités, mais ça vaut aussi pour les porteurs de projets de type associatif au niveau du territoire. On est là un peu comme agitateur, comme facilitateur de développement de projets.
Super, bah, merci beaucoup Juliette. On va se retrouver après une petite pause musicale. On va s'écouter Bluebird d'Ours Sans Plus.
Don't
Et nous sommes de retour sur Radio Balade 101.8. On émet depuis Esperanza. On est dans les studios, on est en prise avec le territoire aujourd'hui. On parle d'énergie renouvelable, on parle de transition énergétique. Et Nicolas, tu vas nous parler d'un sacré projet, nom de Zeus, le projet Hercule.
Eh oui, nom de Zeus, le projet Hercule qui est donc propulsé par Jupiter, notre Jupiter national. Alors, c'est un vaste projet qui n'a pas été beaucoup documenté puisqu'il est encore en négociation et que toutes ces négociations ne filtrent que peu d'éléments, mais quand même, j'en ai trouvé quelques-uns dans la presse, sur Internet, source Mediapart, chaîne YouTube Osons Causer, voilà, si vous voulez en savoir plus. Alors, je présente rapidement ce que j'ai trouvé, puisque là, aujourd'hui, on reparle de la reterritorialisation de la production d'énergie, etc. Mais malheureusement, au niveau national, voire européen, ben, en fait, on insiste au mouvement inverse. Hein, et c'est souvent un petit peu là que le bât blesse. Alors, en résumé, il s'agit de créer à partir de EDF, qui est un groupe public, trois entités distinctes. Alors, EDF Bleu, détenu à 100% par l'État, qui regrouperait les activités nucléaires et le gestionnaire de réseau du transport d'électricité, qui s'appelle RTE. EDF Azur, qui serait consacré aux activités hydrauliques, et qui passerait dans une sorte de régie semi-publique, donc promise à une prochaine privatisation. Et puis enfin, EDF Vert, qui serait consacré, lui, à regrouper les activités de distribution, avec notamment Enedis, dont on a parlé tout à l'heure, les services et les énergies renouvelables, tout ce qui est produit en termes d'énergie renouvelable par EDF. Et ce morceau-là serait introduit en bourse à hauteur de 35%, qui est aussi un prélude à une privatisation totale dans les années suivantes, puisqu'on connaît la recette maintenant. On met le petit doigt et ensuite le bras est aspiré. Alors le but de la manœuvre, c'est conformer le groupe au droit européen de la concurrence. Ce magnifique terme qui, vous allez voir, regroupe un tas de choses riantes. En bref, une véritable opération de prédation, laissant à la charge des contribuables les très lourds déficits des activités non rentables, à commencer par les activités nucléaires, puisque la part qui resterait à l'État, ce serait uniquement la part nucléaire. Sauf que le nucléaire, on le sait, il arrive en fin de vie en France, et donc il y a des réacteurs à réparer pour les maintenir, puisque le projet d'EDF est bien sûr de maintenir ces réacteurs qui étaient prévus pour une durée de vie et de les faire continuer l'exploitation. Donc là, on parle de 50 à 100 milliards d'euros, hein, et en sachant que le secteur nucléaire est déjà endetté lourdement suite au fiasco des nouvelles technologies, comme par exemple l'EPR, dont le premier exemplaire vient d'être livré à la Finlande, avec 10 ans de retard, et des surcoûts de plusieurs milliards. Voilà, donc le nucléaire comme seule option, hein, de la politique énergétique de la France, en fait, qui va être renforcée, et ça va être la seule chose qui resterait publique dans ce projet-là, négocié avec Bruxelles. Alors il faut savoir que, en contrepartie du maintien et du renforcement du nucléaire en France, le gouvernement est en train de se mettre d'accord pour accepter le démantèlement d'EDF dont j'ai parlé, qui est exigé par la Commission européenne, puisqu'il faut mettre à bas EDF, ça n'est effectivement un monopole public, et donc ça ne rentre pas vraiment dans les cadres de sa vision du marché idéal. Hein. Le but, c'est pas de faire mieux fonctionner le système électrique, c'est d'ouvrir les profits, de les transférer en fait du public au privé, comme d'habitude. On s'aperçoit que en fait, si on fait un bilan de ce qu'a donné l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, hormis quelques initiatives qu'on a saluées ici, eh bien on s'aperçoit que le système électrique français a été totalement déséquilibré. Donc les factures des usagers ont augmenté très 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 fortement, hein. Il faut savoir que on compte à peu près 70% d'augmentation des factures d'énergie entre les années 2007 et les années 2020. La concurrence qui est vantée comme souvent tirant les prix vers le bas, eh bien, on voit que dans le secteur électrique, ça ne marche pas. Et pour cause, des investissements énormes sont demandés. Et puis, on ne peut pas faire des marges si gigantesques que cela. Bien que, il y a des effets d'aubaine, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Puisqu'il y a tout un système dont, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisserai regarder sur YouTube, Osons Causer, la chaîne Osons Causer, qui détaille assez bien, mais en gros, il y a un tarif plafond auquel EDF vend son électricité nucléaire. Et si on veut, comme il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, en fait, ces acteurs-là, ils ne peuvent pas, ils peuvent acheter donc le tarif au tarif régulé d'EDF. Et puis quand le marché est plus bas, eh bien, le prix d'EDF lui est baissé vers le bas. Donc en fait, si je résume, EDF perd tout le temps. À chaque fois qu'il vend de l'électricité nucléaire à d'autres fournisseurs, en fait, il perd de l'argent. Soit parce que le tarif du coup négocié est plus bas, soit parce que son tarif plafond, de toute façon, ne couvre pas les coûts de la production nucléaire. À savoir que ce tarif, c'est de 42 euros par mégawattheure et que on considère que le tarif d'une production d'un mégawattheure nucléaire est entre 48 et 53. Donc déjà, de base, EDF perd de l'argent. Alors, ce serait pas dommage si quand même EDF ne comptait pas 60 000 salariés. Hein, donc c'est quand même un fleuron industriel français avec de nombreuses filiales qui en dépendent. Et puis en face, les sociétés de fournisseurs, eh ben, ce sont des sociétés de traders. Hein. Il y a même, j'ai vu qu'il y avait Leclerc Énergie. Donc voilà, on est vraiment dans une sorte de n'importe quoi, où des petites sociétés vont pouvoir, grâce aux régulations européennes, bah, gagner beaucoup d'argent sur des achats et des reventes d'énergie. Voilà, c'est ça le problème d'EDF actuellement. Et c'est pourquoi en fait le gouvernement se lance dans un marché là avec la Commission européenne pour faire en sorte que le prix de l'énergie soit revu à la hausse. Donc le prix de l'énergie nucléaire soit revu à la hausse. Et en échange, eh bien, on privatise toute une partie de l'entreprise. Voilà, donc c'est un bilan assez désastreux au niveau de l'ouverture à la concurrence et puis du développement des énergies renouvelables aussi, puisqu'il faut savoir qu'on paye tous une taxe particulière sur notre facture d'énergie, qui est en fait une taxe censée permettre le développement des énergies renouvelables. Alors si on exclut l'énergie hydraulique, parce que tous les barrages en fait ont été construits dans les années 50, elle ne représente en France aujourd'hui qu'à peine 12% de l'énergie produite, malgré les 100 à 120 milliards qui ont été levés par les taxes spéciales hein, sur les factures de tous les Français. Donc aucune filière industrielle n'a été constituée dans le solaire, ni l'éolien, ni les économies d'énergie. Donc on peut dire qu'il y a vraiment ici un point vraiment très délicat où on voit que en fait la puissance publique, quand elle s'écroule, eh bien malheureusement elle entraîne toute une série de problèmes et qui se manifeste notamment par un transfert des coûts en fait et des investissements des poches du public vers le privé quoi. Donc le privé ramasse. Et puis nous, on va payer. Alors, les Français ont pris conscience là récemment quand même à l'occasion de la pandémie qu'il y avait un hôpital public qui était en sale état. Hein, et malgré ce qu'on disait sur le système de l'hôpital public, le meilleur du monde, etc. Hein, on nous avait vendu ça. Et puis, il faut aussi qu'on fasse attention à ce projet qui arrive parce que on risque de prendre la mesure d'un saccage hein, du système électrique français qui est aussi présenté comme étant le meilleur du monde jusqu'ici, avec une énergie pourtant encore aujourd'hui relativement peu chère par rapport aux autres pays.
Merci Nico. Tu parlais du manque d'investissement à grande échelle dans les énergies renouvelables, le fait qu'il manque un fleuron photovoltaïque ou éolien en France. Hein, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes échelles, mais l'énergie citoyenne dont on a pu parler là avec cette centrale 1, 2, 3 Soleil à Luxeuroute, ça peut aussi prendre progressivement le relais ou du moins remplir des manques au niveau local. Juliette, tu es toujours avec nous ?
Oui, toujours là.
Il me semble que la législation évolue un petit peu sur les possibilités qu'on a au niveau local entre citoyens, avec des petites structures, d'accéder à cette possibilité de devenir énergéticien, d'essayer de faire la transition énergétique à petite échelle. Voilà, il y en a qui ont essuyé les plâtres, hein, notamment nos amis à Luxeuroute. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Est-ce que ça s'ouvre un petit peu plus ?
Eh bien, effectivement, on a un cadre législatif réglementaire qui a évolué. Donc, il y a Luxeuroute qui a pu essuyer les plâtres, mais on peut aussi parler du projet de Bégane, projet d'éolienne participative, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et on a eu une loi territoire pour la croissance verte, pardon, en 2015, qui a permis, en tout cas, de décloisonner la frontière entre projets portés par les collectivités, projets portés par les citoyens, et du coup qui permet aux collectivités d'investir dans des projets qu'on peut dire citoyens. On a cette loi-là et ensuite on a aussi une loi en 2019 énergie-climat qui est aussi venue préciser certaines dispositions issues de la loi territoire pour la croissance verte, notamment au financement des projets par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont déterminants pour permettre une augmentation massive de la production d'énergie renouvelable dans les territoires, travailler l'acceptabilité des projets et les retombées économiques pour les territoires. Juste peut-être préciser aussi pour les auditeurs et les auditrices sur ce qu'on entend par projet citoyen et participatif. On peut citer la tête de réseau national énergie partagée, hein, qui accompagne les projets citoyens avec des associations régionales, et qui définit aussi un projet citoyen ou un projet qui associe à la fois collectivités, acteurs locaux, habitants, et où il y a à la fois une appropriation en termes de gouvernance de la société de projet, comme c'est le cas pour 1, 2, 3 Soleil, où ce sont des actionnaires citoyens qui sont au conseil de gestion de la société, mais à la fois en termes de retombées économiques locales. C'est-à-dire que si on prend le PMR, par exemple, on a 85% de la facture énergétique qui sort du territoire. Ça représente 74 millions d'euros. C'est énorme. Et donc, la puissance aussi des projets d'ENR territoriaux, projets citoyens, c'est au-delà de l'appropriation et de la gouvernance locale, c'est aussi de l'économie pour le territoire qui permet de pouvoir développer d'autres types de projets, qui permet aussi, au-delà d'une autonomie énergétique, mais aussi une autonomie dans le développement des aménagements, des services liés à la population, de la réduction des inégalités en termes énergétiques, des passoires énergétiques, etc. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, et pour une petite touche positive, en tout cas pour sensibiliser ceux qui auraient envie de s'investir. En région Occitanie, les projets citoyens, on est donc plus de 6000 personnes qui sont engagées, donc qui ont financé, se sont investis dans des projets, donc 6 000 citoyens, 135 collectivités qui sont aussi associées sur ces projets-là, comme à Luxeuroute, hein, c'est-à-dire c'est un projet porté par une commune dans lequel est associé les habitants, et dans d'autres endroits, c'est plutôt des habitants qui sont allés chercher la collectivité. C'est plus de 23 projets en exploitation, plus de 40 en développement et une vingtaine en émergence. Et du coup, en termes d'euros, ça représente environ 5 millions d'épargne citoyenne levées pour pouvoir financer l'ensemble de ces projets, environ une douzaine de gigawattheures installés. Et dans l'Aude, du coup, on a plusieurs structures, plusieurs coopératives, associations qui sont à la fois en structuration et en émergence pour pouvoir accompagner ces dynamiques au niveau du territoire. Et elles sont à peu près réparties, une partie Corbière, Montagne Noire, une partie du Sud, et on a un peu les pionniers 4EMR qui sont dans le département des Pyrénées orientales. Donc, il y a de quoi faire aussi pour pouvoir s'engager dans ces questions-là. Et nous, PMR, on sera attentif, enfin, c'est inscrit dans la charte, hein, qu'on sera attentif et à l'accompagnement de projets dits territoriaux en termes de gouvernance et de retombées économiques locales.
Super, merci Juliette. Justement, sur ce côté d'investissement citoyen local, sur le côté de relocalisation de l'économie, d'éviter que cet argent fuit le territoire aussi, celui qu'on dépense pour, pour avoir un service énergétique. Gérard, j'imagine que ça fait partie des, un peu du discours qui a pu être fait au niveau des citoyens à Luxe-sur-Aude pour les inciter à participer à ce projet, c'est de relocaliser aussi cette production et de garder l'argent aussi sur le territoire.
Oui, oui, tout à fait. Le projet de Luxe-sur-Aude a été présenté aux gens pour les inciter à investir dedans en montrant qu'il y avait la possibilité de toucher des dividendes sur les sommes qui étaient investies. Donc il a fallu trouver, donc on a dit tout à l'heure, 260 sociétaires pour réunir les 275 000 euros qui ont été mis, qui ont été complétés par 100 000 euros par la région. Donc l'investissement total, c'est 375 000 euros. Et chaque année, ça fait deux ans que la centrale fonctionne et qu'on a pu verser des dividendes aux sociétaires. Et donc l'année dernière, on a versé un revenu des dividendes de 5% par rapport au parc, au montant qui avait été investi. C'est-à-dire qu'on a distribué sur l'ensemble des adhérents 13 500 euros de dividendes aux sociétaires de la société 1, 2, 3 Soleil.
Super, donc j'imagine ça, Juliette, ça doit faire partie hein, de la charte hein, du parc aussi, cette dimension de refaire un tissu économique local assez dense et notamment d'utiliser le secteur énergétique pour densifier ce tissu, pour garder la richesse au niveau local dans cette région.
Oui, tout à fait, ça en fait partie. Hein, comme j'expliquais dans la charte, il est précisé que les projets soutenus ou en tout cas valorisés doivent être à dimension territoriale, c'est-à-dire avec une gouvernance, si ce n'est 100% publique, une gouvernance publique citoyenne. Donc effectivement, c'est un critère sur lequel on sera attentif d'un point de vue pour l'économie locale, mais aussi articulé dans la transversalité des autres actions que le PNR va avoir à mener. Et de la relation entre projet de production d'énergie renouvelable et la relation au paysage, au tourisme, à l'urbanisme, au service de la population, à la biodiversité, agriculture, etc. C'est-à-dire que cette dimension-là, elle n'est pas propre à la question de la transition énergétique, mais elle est bien transversale à toute la question du développement économique ou du développement et de l'aménagement des communes et des collectivités à l'échelle du parc.
Gérard ?
Après, l'objectif de la société 1, 2, 3 Soleil, c'est pas forcément non plus de distribuer des dividendes à des gens qui voudraient investir dans le photovoltaïque et se faire beaucoup d'argent. L'objet principal de 1, 2, 3 Soleil, c'était de se doter d'une centrale photovoltaïque qui produise à peu près la consommation énergétique de la commune de Luxe-sur-Aude. Et après, dans les objectifs des statuts de la société, la rémunération arrive en troisième ou quatrième point. Le point principal, pour le conseil de gestion, de diffuser l'information sur la possibilité de créer des parcs photovoltaïques citoyens, avec un investissement local et une gestion locale par des citoyens, des membres du conseil municipal, mais aussi des citoyens des communes voisines, et d'arriver à aider d'autres communes à créer des parcs photovoltaïques citoyens.
Bon, je crois que ça répond effectivement bien aux objectifs de ce parc.
Ah oui, tout à fait.
Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette Thévenio, chargée de mission au, donc, on va dire, futur parc naturel régional des Corbières-Fenouillades. Merci de nous avoir éclairé sur cette thématique, sur ton travail au sein de cette structure. Merci beaucoup, Gérard Chauvet, administrateur d'un de trois Soleil, cette centrale photovoltaïque citoyenne située à Luxe-sur-Aude. Merci, Nicolas. aussi de nous avoir éclairé sur, sur ce contexte, et notamment sur ce contexte national un peu brûlant et sur lequel on va évidemment garder notre attention. Vous êtes toujours sur Radio Balade, restez à l'écoute, nous on vous a tenu au courant, maintenant c'est à vous de faire vos choix. A très vite dans les comptoirs du monde. Thank you.